Une des choses que je voudrais pendant ce cours vous laisser voir, c'est une phrase toute simple, c'est ce qu'il y a derrière, qui dit que l'imagination morale ou éthique est la condition d'actes libres. Ce n'est que dans la mesure où nous réfléchissons à ce que nous faisons, à ce que nous imaginons les conséquences éthiques ou morales de ce que nous faisons, que nous pouvons nous qualifier d'être libres. Une phrase de Steiner, qui est à la fois un philosophe, un pédagogue, un innovateur dans plein de domaines. Les écoles Steiner, c'est de lui, Rudolf Steiner. Alors, on va voir tout de suite ce que cela veut dire, et on va commencer par l'histoire de ce monsieur, Lee Pinto. Et donc, je voudrais, pour commencer, c'est que quelqu'un d'entre vous nous rappelle quelle est la problématique, le dilemme éthique auquel fait face ce monsieur Pinto. Qui peut le faire? Oui.
C'est un fabricant de voitures.
Vas-y, parle fort.
Un fabricant de voitures qui doit lancer une nouvelle voiture sur le marché.
Elle est déjà sur le marché.
Déjà. Ouais. Le problème, c'est qu'ils savent que les protections arrière ne sont pas suffisantes. Ouais. Que l'accident, ça pourrait être dangereux.
Exact.
Mais ils pourraient prendre la décision d'avancer parce que au niveau des coûts, les coûts engendrés par les poursuites juridiques seraient inférieurs au coût de rajouter cette protection pour améliorer la voiture.
Exactement. Donc, effectivement, les voitures sont déjà sur le marché, ils ont dû les sortir très vite. C'est pour ça qu'il y a eu probablement des défauts au niveau du design de la voiture. Et ils se sont rendus compte du problème. Et ils ont fait une analyse coût-bénéfice qui montre que les laisser sur le marché va entraîner probablement des accidents pour lesquels il y aura des poursuites judiciaires, juridiques. Mais que si on calcule bien, cela devrait être moins coûteux que de rapatrier toutes les voitures, de les changer. Et la question, donc, vous avez reçu ce rapport de vos équipes qui vous dit cela, hein, que l'analyse coût-bénéfice est telle. Qu'est-ce que vous faites, vous, et surtout pourquoi? Alors, qui se met là?
Petit détail pratique. Parce que nous, on ne vous connaît pas encore.
Oui, vous
n'avez pas de connaissance.
Votre prénom, oui. Ça, c'est super.
Marion.
Marion.
Nous, on avait réfléchi et c'est vrai que financièrement, du coup, il est plus important de ne rien faire et de laisser les voitures dangereuses comme elles le sont. Mais on a pensé que le coût d'une mauvaise communication et d'une mauvaise réputation était bien plus important qu'un coût matériel. D'accord. Parce qu'une mauvaise réputation, ça crée très vite et ça reste longtemps, même si après on fait des efforts. Après c'est trop tard, c'est avant qu'il faut anticiper et c'est vraiment important dans la communication écrite.
Et donc dans ce cas-là, vous...
On rabattrait la petite voiture, on changerait. Et à la limite, pourquoi pas ne pas faire savoir, c'est vrai, on a fait une erreur, mais regardez, nous on vend des voitures sûres ou alors on ne les vend pas.
D'accord. Donc là, l'argument est de dire, pour des raisons de réputation, hein, de communication, on rapatrie quand même les voitures, même si ça va nous coûter plus cher. Est-ce qu'il y a d'autres qui ont d'autres positions et d'autres raisons pour faire l'une ou l'autre chose? Pour l'instant, seul Marion a la volonté d'être un CEO, hein, de jouer le jeu. Qui d'autre peut... Oui, vas-y.
C'est Benjamin. Et c'est quand même, en fait, c'est que, du coup, ce qu'on peut plus avait, mais dans l'avenir, si les accidents que ça va créer, ça s'est pourri, la réputation d'entreprise va diminuer et risque d'être beaucoup plus, d'être vu moins, d'une façon moins bien, regardée comme
producteur. Donc là, tu suis, en fait, la même idée. Oui.
Je m'appelle Anthony.
Oui.
Moi, je pense plutôt à la personne en tant que telle, donc la vie de la personne, et pas forcément en termes de business.
Oui.
Parce que le but d'une société, c'est de comprendre les besoins, d'être proche du consommateur. Et s'il ne comprend déjà pas le premier besoin qui est un besoin de sécurité, ben, je pense que ça n'est pas la peine.
D'accord. Et donc, le fond de ta pensée, c'est de dire que pour montrer que tu comprends bien les besoins de. Les clients, ben tu les rapatries. Quelque part, c'est une variante sur l'aspect réputation ou pas.
Oui,
Qu'est-ce qui te chipote là? Essaye de clarifier. C'est important.
Tout simplement le côté, je sais pas, humain, voilà.
Ah, le côté humain. Qu'est-ce que tu veux dire par le côté humain?
Tout simplement, je sais pas, la vie d'une personne.
C'est... La vie d'une personne. Mais là, c'est une autre logique, en fait.
Non, non, il y a plusieurs choses qui se mêlent.
Absolument, mais très bien. Alors, vous voyez, ce qu'on essaye de faire ici, c'est de démêler les arguments pour les clarifier et pour voir effectivement quel type d'argument on peut avoir face à une situation de ce genre-là. Ok ? Qui a d'autres façons de voir les choses ? Oui ?
Donc, moi, je m'appelle Johan.
Johan.
Nous, on a beaucoup réfléchi sur le coût d'une vie humaine.
Oui.
Donc, pour nous, la vie humaine n'a pas vraiment de coût, donc on ne peut pas prendre des risques sur une vie humaine.
D'accord.
Et par ailleurs, on a également réfléchi sur la manière dont, par exemple, le CEO va penser. C'est que s'il met des voitures qui vont tuer des gens par la suite, lui ne pourra peut-être pas vivre sa vie correctement en pensant à ça. Et donc, les employés de la boîte qui savent ce qui s'est passé, de la même manière.
Tout à fait, tout à fait. Donc là, c'est une autre logique que celle que Marion avait proposée en termes de réputation. C'est plus basé sur le principe du respect de la vie humaine. Et puis, sur la capacité de ceux qui prennent ces décisions à vivre en paix avec cette décision. Très bien. D'autres réactions? Oui.
Moi, c'est Alice. Et en fait, nous, ce qu'on a vu, c'était que comme ici, ils avaient l'air de donner pour se faire le maximum d'argent, c'est que si les gens apprenaient qu'ils cachaient le fait que la voiture n'était pas sûre, ben, il y aurait moins d'achats de la voiture et à long terme, ben, on n'achèterait plus et donc le profit baisserait. Et donc, c'était mieux, comme on a dit, de rattacher.
D'accord.
La voiture.
Là, on reste dans la même logique de la réputation. Mmh. Encore ? Oui ?
Moi, je m'appelle Alex.
Alex.
Et pour moi, ce qui a été déterminant, c'est que peut-être qu'on parle de vie humaine, c'était aussi à quel public on s'adresse. Donc je pense que c'est ce qui a fait le fait de jouer sur l'aspect financier. Le fait de tout, c'est parce que peut-être qu'on s'adresse à un public à qui ça parle.
Tu veux dire les investisseurs ou ce genre de choses.
Ouais, tout à fait.
Et qu'est-ce que tu ferais? Tu les rapatrierais ou tu les laisserais sur le marché?
Je les rapatrierais.
Et pour quelles raisons?
Bah, premièrement, pour la raison humaine.
Ouais.
Et ensuite, sachant le public, pour des raisons financières, pour la raison.
D'accord. Ok. Oui.
Moi c'est Marie.
Oui.
Donc moi j'avais pensé que dans l'idéal c'était mieux de faire revenir les voitures et de les modifier avant de les vendre. Maintenant, si les coûts que ça engendrait étaient trop risqués pour l'entreprise et que ça pouvait mener à la faillite.
La faillite, oui, tout à fait.
Ça pouvait aussi entre guillemets coûter des vies parce qu'il faudrait licencier des gens et ça peut être un peu une chaîne.
Exact.
J'aime ça enfin, si c'est le seul revenu de la famille, etc. Les gens qui vont plus me dire, etc. Donc je pensais qu'il fallait vraiment plus faire un genre d'estimation des coûts avant de faire venir les voitures. Et ensuite, évidemment, si c'est possible, même si ça réduit fortement le bénéfice qu'on peut faire, maintenant, si ça risque de mettre en péril l'entreprise, c'est quand même risqué et la probabilité qu'il y ait un accident est quand même faible.
Oui. Tout à fait. Et pour aller dans la logique que tu dis, on pourrait argumenter que de toute façon une voiture, a priori on sait que ça peut causer des accidents, etc.
Il
n'y
a pas toujours d'accident
non
plus. Heureusement, heureusement.
Bien. Il y a encore quelqu'un qui peut réagir par rapport à ce cas ou qui a une position différente de celle qui vient d'être déjà. Oui.
On pourrait peut-être les laisser sur le marché, parce que si les voitures ont été lancées, elles ont passé des crash tests, il y a des normes à respecter, donc je suppose qu'elles les ont respectées, ces normes. Même si c'est le score minimal qu'elles ont obtenu, elles ont quand même passé. Donc si l'entreprise a cette réputation de ne pas être la voiture la plus sécuritaire, et que c'est une voiture qui coûte pas cher et que les gens l'achètent pour ça, ils le savent,
alors,
si elle ne ment pas à ses clients.
C'est un argument intéressant que tu évoques, on va y revenir. Mais qui serait de dire, si a priori je suis couvert par des crash tests, des instances externes qui ont validé le design de la voiture, en gros c'est plus mon problème. Donc
je crois que c'est plus mon problème, mais il ne faut pas mentir. Si on le sait que ce n'est pas les voitures les plus sûres du marché, après il faut voir évidemment si au moins de choc la voiture.
Bon, Merci pour tout ça. On va revenir sur les différentes réponses. Mais ce que vous devez savoir, c'est que c'est un cas réel. C'est un cas réel. Et c'est le cas, en fait, de la Ford Pinto en 74, en 1974. La Ford Pinto, qui était ce type de voiture, hein, qui a été construite par Ford de manière très rapide pour répondre à la concurrence japonaise à l'époque. Et le problème, c'est comme on l'a dit, ils ont fait ces calculs coût-bénéfice et ils ont décidé de laisser les voitures sur le marché. C'est intéressant de voir qu'à l'époque, évidemment, ça ne leur posait pas de problème. En tout cas, ils l'ont fait. Et au bout du... Le problème, c'est qu'au bout du 27e accident mortel, là, ils se sont rendus compte que les coûts en termes juridiques commençaient à exploser. Ils ont été forcés de faire marche arrière et de rapatrier les voitures. Alors, la question, c'est comment expliquez-vous la différence entre vos réactions et la décision qu'a prise à l'époque Lee Iacocca, le véritable patron de Ford? Oui.
Alors peut-être le fait...
Comment t'appelles-tu?
Tiffany.
Tiffany.
Le fait qu'on n'est pas dans la réalité, c'est juste une réflexion qu'on nous demande comme ça et qu'on réfléchit de manière idéaliste. Tandis que dans la réalité, quand on est patron et qu'on n'a plus employé que son mail, c'est difficile aussi de réagir comme ça. Là, on n'est pas dans la réalité, donc c'était pas la même époque.
Oui, mais alors justement, vas-y.
Pardon. Alors, j'allais dire justement qu'on n'est pas en 1974, que maintenant je pense qu'il y a des poids sociétaux qui font qu'on va peut-être prendre des décisions plus réfléchies au niveau de justement de la sécurité qu'on n'avait pas en 1974 avec France. Alors on n'a pas eu tous les accidents qu'on a eu aujourd'hui, quoi. Pas de
okay. Oui, d'autres réflexions par rapport à ça, oui. Vas-y.
Moi c'est Robin. Et nous on pense tous qu'on a envie de sauver la vie des gens, mais il a la pression des investisseurs et tout, et il est un peu dans un équipe où il ne sait pas quoi faire, et il veut gagner de l'argent, et il y a tout le monde, à mon avis, qui le pousse pour la sortir, donc il ne sait pas vraiment décider lui-même.
Ouais. D'autres traits, oui, Marion.
Et puis, je pense qu'il y a le fait aussi qu'il lance la voiture expressément pour faire de la concurrence aux voitures japonaises. Ce serait
vraiment un double échec, quoi.
Ce serait vraiment dire
qu'on ne
sait pas faire de la
concurrence,
et ce serait
un peu catastrophique
en termes d'image.
Ouais. Ok. D'autres réflexions? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, si cela se reproduisait de façon similaire, est-ce que les gens réagiraient différemment?
Alors, c'est un tout autre contexte, parce que maintenant, avec les médias, moi, c'est pour le passage.
Oui.
Avec les médias, maintenant, on saurait directement qu'il y aurait un défaut sur une voiture, alors que là, dans le temps, il n'y avait pas tout ça.
Exact. Donc,
la communication était totalement
différente. Donc, justement...
Moi, à la place de lui, de ouais. Coca, si je savais qu'il n'y aurait pas d'énormes répercussions sur ma société, je les aurais laissées et j'aurais pris l'argent qu'on m'aurait donné. Maintenant, aujourd'hui, c'est plus possible.
D'accord. OK.
Ouais, ça s'est passé
récemment.
Robin
aussi. Okay.
Ça s'est passé récemment avec Toyota.
Oui.
Donc ils avaient des problèmes de frein avec les voitures, je pense. Et ils ont barré les voitures parce qu'il y avait trop d'accidents.
Exact. Alors, mais ça c'est un point intéressant, Robin. Vous connaissez donc le scandale de Toyota, hein, des pédales de frein qui, en gros, bougeaient toutes seules, semble-t-il. Et donc effectivement, Toyota, dit-on, a rapatrié très rapidement toutes les bagnoles à un coût faramineux. Alors, ma question elle est simple. Est-ce que vous considérez que Toyota est plus éthique ou agit de manière plus éthique que Ford à l'époque? Oui ou non et pourquoi? Vas-y.
Gauthier. Je pense que l'éthique a peut-être évolué entre temps, comme on disait tout à l'heure.
Pourquoi est-ce qu'elle aurait évolué?
Aujourd'hui, on a beaucoup plus de médias, beaucoup plus d'esprit critique, on se pose plus de questions et il y a beaucoup plus d'organisations qui s'intéressent à tous ces problèmes. Et pas à l'époque. Donc il y a une évolution des normes et des éthiques, je pense.
Qui est d'accord avec ce que dit Gauthier?
Ce qui était juste à l'époque, c'est plus juste maintenant. Et...
Levez votre main, qui est d'accord avec ce que dit Gauthier et qui n'est pas d'accord? Alors, vas-y, pourquoi n'es-tu pas d'accord?
Je ne suis pas d'accord parce que je m'appelle Thomas.
Ouais. C'est parce que tu t'appelles Thomas.
Qui est vraiment intéressant parce que vous dites ok, ils n'auront pas pris les voitures très vite, mais moi je me pose la question, depuis quand savait-il qu'il y avait ce problème
sur
les voitures? Ils ont peut-être attendu comme là que la probabilité d'avoir un accident et que l'accident soit lié à ce problème-là. Et quand ils ont vu qu'il y a eu quelques accidents à ce moment-là, ils se sont dit bon, on va voir rapatrier, mais on ne sait pas depuis quand on avait.
C'est effectivement, si on lit un peu les articles sur le problème Toyota, c'est ce qu'on peut lire. On peut lire aussi l'inverse, qui est de dire, dans certains cas, en tout cas certains argumentent, qu'en fait, on n'est même pas sûr qu'il y avait un vrai problème. Bon, il y avait peut-être eu l'un ou l'autre modèle qui avait, mais que fondamentalement, il n'y a pas de preuve qu'il y avait de vrais problèmes, mais qu'ils les ont quand même rapatriés, précisément à cause de l'effet réputation qu'ils voulaient maîtriser à tout prix. Mais Adriano,
le problème, c'était pas qu'ils avaient sous-traité à un fabricant qui a fait la pièce de mauvaise qualité. C'était pas vraiment leur faute.
Ça, je sais pas. Je ne saurais pas te répondre. Marion,
si je peux. Je pense aussi que le consommateur est.
Vas-y, Marion.
Le consommateur a beaucoup plus critique aussi aujourd'hui que dans les années. Je ne sais pas quand ça s'est produit, mais je ne sais rien. Mais,
parce que c'est il y a deux ans.
Le consommateur est plus critique que, par exemple, dans les années 50 ou 60. Aujourd'hui, comme l'a dit Gauthier, on a des informations, des organisations de protection du consommateur. On voit, il y a plein d'émissions super populaires, tout s'explique, on n'est pas des pigeons, qui sont là justement pour divulguer des problèmes comme ça. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus risqué aujourd'hui pour une entreprise de se dire tant pis, on fonce, on produit pas de qualité, mais tant pis, on essaye.
D'accord, d'accord avec toi, mais est-ce que ce que tu viens de dire explique ce qu'a dit Gauthier, c'est-à-dire Gauthier nous dit, corrige-moi, en fait aujourd'hui l'éthique a évolué par rapport à 1974. C'est pour ça qu'ils réagissent différemment.
Pour moi, c'est pas l'éthique qui a évolué.
Ah, voilà, c'est pas l'éthique, c'est quoi alors?
C'est
la pression des médias, des médias sociaux.
C'est l'information.
Voilà.
Ça
nous mène, je pense, à une remarque fondamentale. C'est que l'éthique, elle est pas simplement, on ne la juge pas simplement sur les actes qu'on pose, mais aussi sur les intentions qui nous mènent à poser ces actes. Et donc, on pourrait dire que les gens de Toyota, aujourd'hui, ne sont pas plus éthiques que ceux de Ford à l'époque, simplement les circonstances ont changé de telle manière à ce que, effectivement, la pression médiatique, etc., est telle que l'effet réputationnel aujourd'hui a beaucoup plus d'importance qu'il ne l'avait il y a 40 ans. Mais sur le fond du fond, les gens ne sont pas devenus plus éthiques. Et alors là, et je fais un court-circuit, on pourrait dire que s'ils étaient plus éthiques, ils auraient donné plus d'importance, entre guillemets, au respect de la vie humaine, comme Anthony, ou comme, rappelle-moi ton prénom, c'est Anthony et... Oui, toi,
Johan
le disait. Vous voyez, ça c'est une première remarque de fond, c'est de bien distinguer entre ce que l'on fait et le pourquoi on le fait. L'éthique s'intéresse aux deux, tandis que d'autres mécanismes se concentrent simplement sur le résultat. Et ça nous mène à distinguer aussi deux types d'éthique. On va y revenir après. Mais on peut prendre des décisions de type éthique sur la base d'un principe. Par exemple, nous voulons respecter la vie humaine, entre guillemets, coûte que coûte. Dans ce cas-là, on prend une décision de type qu'on appelle déontologique. Donc, indépendamment des conséquences, nous estimons que le plus important est de respecter le principe, en l'occurrence, le principe du respect de la vie humaine. À l'inverse, il y a des positions éthiques qui sont de type utilitariste, c'est-à-dire je prends ma décision en fonction des conséquences de cette décision et que je vais d'une manière ou d'une autre essayer de mesurer en termes de plus et de moins. La question étant de savoir, c'est plus et c'est moins, c'est pour qui? C'est pour moi? Est-ce que c'est pour les clients, est-ce que c'est pour la société dans son ensemble, etc. Et vous voyez là, si je peux me permettre, on peut caractériser deux types de positions très différentes en termes d'argumentation, qui sont celles de Marion qui disait, voilà, je les retire du marché parce que l'analyse coût-bénéfice enrichie des aspects réputationnels me fait pencher pour cette solution, tandis que Johan ou Anthony vous disent non, indépendamment de cette analyse, je les retire quand même parce que pour moi, ce qui importe, c'est le respect de la vie humaine. Quoi qu'on peut dire que, voilà, c'est une éthique plus, on peut la qualifier comme on veut, hein, d'humaniste, etc., dans le sens d'Anthony ou de Johan, tandis que celle de Marion est une éthique plus utilitariste. On va revenir sur tout ça. Mais ici, vous voyez, c'est quand même un cas assez grave, puisqu'il y va vraiment de vie humaine. Bon, ceci étant dit maintenant, passons au deuxième cas. On reviendra après sur tout ce qu'on a dit. Deuxième cas, oui, vous voyez donc, effectivement, j'avais déjà prévu que vous alliez sortir le scandale Toyota, parce qu'effectivement, c'est ce qui... c'est vraiment, on peut mettre les deux en parallèle. Alors, oui, je vous laisse passer. Au niveau du deuxième cas, c'est celui de Steve Lewis. Alors, qui peut nous rappeler face à quel dilemme Steve Lewis se trouve ? Oui ? Comment t'appelles-tu ?
Arlène.
Ah, oui.
Steve Lewis, je crois, dans son cas, il est analyste dans une banque internationale et il est confronté à un dilemme qui s'est posé pour lui d'aller assister à une réunion dans une autre ville à Saint-Louis, je crois,
que
son boss lui a demandé d'y aller assister. Et parallèlement, je crois qu'il se lie d'amitié avec son boss, enfin, il crée des liens personnels assez en très bon relation positive avec son patron.
Ouais.
Et donc du coup, son patron lui demande d'aller assister à une réunion à Saint-Louis pour faire la venue d'un nouveau client qu'il aimerait avoir dans la banque. Mais il y a une politique claire de l'entreprise qui dit que les analystes ne sont pas autorisés à assister à des réunions dues à leur manque d'expérience et d'expertise sur le terrain. Donc du coup, il se pose la question, il nous posait la question de savoir si on pouvait assister ou pas à la réunion. Et moi, dans ce cas-là, j'avais dit non, et c'était sur la base de la politique claire de l'entreprise qui dit que, voilà, en tant qu'analyste, il n'a pas le droit d'assister à la réunion à Saint-Louis. Mais aussi, il y a un problème qui va peut-être se poser dans son cas, dans le cas où s'il entretient de bons rapports avec son patron au boulot, est-ce que ça n'aura pas de répercussions négatives dans le sens où peut-être il pourrait lui en vouloir ou pas. Mais si on parle en termes d'éthique, de déontologie, enfin en termes d'éthique, moi je me dis qu'il faut respecter la politique que l'entreprise dit, parce qu'après, qui assumera les conséquences si le fait qu'il soit à la réunion, ça a plutôt un impact négatif et qu'il ne réussit pas à avoir le client qu'il voudrait avoir.
D'accord, ok, ça c'est la position d'Arles. Qui d'autre ?
Je m'appelle Anthony.
Anthony. Ok, Anthony 2.
On s'était posé la question, et de notre point de vue, on aurait été à la réunion, parce que le principe, c'est quoi ? C'est de mettre le maximum de chance de son côté.
Ouais.
Donc, par exemple, on a fait une analogie avec le cas, je pense que c'est la culture japonaise, où il y a le principe de s'offrir des cadeaux lors des échanges économiques. Ben, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? On s'adapte et on adopte aussi cette culture en quelque sorte en échange des cadeaux. Là aussi, c'est aussi un peu le même principe d'adaptation, sachant que ça peut mettre le maximum de choses de l'autre côté. Alors on s'adapte à ces conditions et on va la réunion.
D'accord. Ok.
C'est
Damaris.
Ce qui nous avait interpellé, c'est qu'il avait été envoyé à cette réunion principalement parce qu'il était noir. Donc on se demandait s'il n'y avait pas un problème d'envoyer quelqu'un à une réunion en sachant qu'il techniquement ne pouvait pas y aller juste parce que la couleur de sa peau, donc nous on avait décliné la proposition parce qu'on pensait que c'était pas
quoi exactement.
Il n'avait pas les compétences requises et puis il était envoyé juste parce qu'il était noir.
En quoi est-ce que ça pose problème selon toi? Est-ce que toi personnellement tu aurais pu?
Enfin oui et non, j'ai arrêté, ça avait posé des graves, enfin, ça avait si le fait de ne pas y aller aurait eu d'importantes conséquences sur ma carrière. Maintenant, s'il n'y a pas de conséquences importantes. Envoyer quelqu'un à une réunion à cause de sa rage, de la couleur de sa peau, c'est pas forcément la meilleure image que l'entreprise peut donner à toi.
D'accord. Ok, d'autres réactions?
Je pense en fait que.
Comment te l'as-tu ?
Judith. Je pense en fait que le critère il n'est pas objectif.
Ah ouais, vas-y.
Je pense que c'est basé sur la couleur de la peau. C'est pas professionnel en fait. Okay. C'est pas professionnel de déléguer une personne juste sur la couleur de sa peau.
Alors,
déjà, on va y avoir pas d'expérience professionnelle.
Écoutez, Judith, s'il vous plaît. Tu y vas ou pas, Julie?
Moi, je n'y vais pas.
Tu n'y vas pas, parce que tu estimes que ce n'est pas une demande professionnelle. Oui, d'abord Anthony, puis Alex.
Premièrement, c'est discriminatoire. Et ouais. Puis, ben, je pense que ça dépend aussi du contexte. Si on est père de famille, qu'on a des... On a simplement fait des achats, qu'on a des choses à payer, on ne peut pas se permettre de refuser. Même si par la suite, on peut avoir des discussions avec le boss pour lui dire que... C'est pas du tout correct ce qu'il a fait.
En quoi est-ce que c'est discriminatoire? Qu'est-ce qui te pose problème?
Peut-être que si, mais non, oui.
Je peux poser la question. Alex.
Mon pour répondre à la question, personnellement.
Écoutez, Alex, s'il vous plaît. Allez, Alex.
Donc, je disais donc, pour répondre à la question, personnellement, j'y serais allé. Ouais, pour une chose, pour revenir sur la demande ici, que c'est une manière comme une autre d'avoir un avantage, et pour moi, ce n'est pas nécessairement faire le tour. Et pour faire une analogie, sans vouloir m'attirer des trucs dont j'ai pas d'accord, c'est comme inviter une fille à faire affaire pour que ça oui. passe bien.
Ok, bon, on va vas-y. Nicolas, on écoute Nicolas.
Alors, en fait, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est discriminatoire, c'est comme ça va, mais on dit aussi qu'ils sont un peu servis par la crise, donc peut-être un peu naïf, peut-être qu'il y a peut-être un peu maladroit, je ne sais pas ce qu'on voilà. Et que pour, personnellement, j'y serais allé parce que c'est quand même une opportunité, et que c'est aussi un gage de confiance de la part du patron de nous offrir ça, alors que normalement, en tant qu'analyste, on n'a pas le droit d'y aller. C'est aussi le patron a confiance.
Ça peut être une opportunité, j'y suis. Ok. Alors, attendez, avant de faire d'autres remarques, je voudrais faire un petit exercice. Sans justifier, simplement en levant son doigt, qui y va et qui n'y va pas. On va commencer par ceux qui y vont. Qui y va? Ouais. Vous baissez maintenant. Qui n'y va pas? C'est un plus petit groupe. Maintenant, parmi ceux qui y vont, relevez votre bras. Imaginons que la situation est un peu différente. Ce n'est plus une question de couleur de peau, c'est une question, comme Alex l'a intelligemment suggéré, une question d'attractivité, je dirais, de la beauté féminine. On va dire que vous imaginez, restez bien avec votre bras levé, vous imaginez que vous êtes une jolie fille, c'est difficile pour certains, mais bon, vous essayez, et que le patron vous demande, vous avez une très bonne relation, il vous demande d'y aller, et vous dit avec un petit sourire, mais une jupe assez courte, parce que ça plaît vraiment à ce client. Alors ma question pour tous ceux qui ont le bras levé, est-ce que vous gardez le bras levé? Donc, ceux qui n'y vont pas dans ce cas-là, baissent le bras et on voit qui reste. Tout d'un coup, il y en a beaucoup moins. Bon, alors, mais vous pouvez baisser les bras. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Robin, tu peux. Je sais que tu voudrais être une fille. Je sais que tu voudrais être une jupe, mais c'est pas le moment. Bon, donc, qu'est-ce que ça nous dit, ça, en fait? C'est que les raisons pour lesquelles on accepte ou on considère qu'il y a un problème peuvent varier énormément. Et ça va dépendre de choses qui ne sont pas nécessairement partagées par tout le monde. Et donc, pour le coup, ce qui est vraiment important, et c'est beaucoup plus marqué probablement que par rapport au premier cas, il est très difficile de se mettre d'accord dans ce cas-ci sur ce qui serait l'attitude, entre guillemets, éthique, de manière générale. Donc certains, avec toute leur, toute leur conscience, vous disent « il n'y a pas de problème, j'y vais ». Et d'autres vous disent « ça me pose un problème ». Et il est très difficile de faire comprendre par celui à qui ça pose un problème, faire comprendre à celui pour qui ça ne pose pas de problème, du pourquoi. Il n'en reste pas moins que ce sont effectivement des dilemmes éthiques. Et donc, en fait, l'un des problèmes auxquels vous allez être confronté, c'est que des situations comme ça, en entreprise, et même de manière générale dans la société, et vous en avez probablement déjà vécu, vous allez en connaître beaucoup. Mais ce n'est peut-être pas simplement un problème, ça peut être aussi une opportunité. Une opportunité de mieux se connaître, de savoir comment on réagit. Alors, pour réfléchir là-dessus, je propose de réfléchir au type de questions que Steve Lewis et vous-même auriez pu vous poser dans une telle situation, de manière à vous aider à répondre à la question « Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas ?» Et je pense que les questions que je vais vous présenter là, elles peuvent s'appliquer dans plein d'autres situations. La première, c'est de se dire « Mais quels sont mes sentiments par rapport à cette situation ?» Indépendamment du raisonnement que je fais, du raisonnement intellectuel, comment est-ce que je me sens par rapport à ça ? Est-ce que y aller ou ne pas y aller me fait me sentir bien ou mal ? C'est très important d'essayer d'écouter ses sentiments face à une situation comme celle-là, et pas seulement sa tête. La deuxième question qu'on peut se poser, c'est entre guillemets nos racines, d'où nous venons. C'est-à-dire que la personne dont, par exemple, les parents, ici on est dans un cas plutôt américain, effectivement, imaginons que ce soit effectivement Steve Lewis, un américain, et ses parents ont milité avec Martin Luther King pour le fait que les Noirs aient le droit de vote aux États-Unis. Ça ne va pas laisser indifférent sa manière de réagir à ce problème. Mais à la limite, on pourrait imaginer deux situations. C'est que ils disent, eh bien précisément, par respect par mes parents, je ne veux pas être exploité, entre guillemets, par l'entreprise, dû à la couleur de ma peau. Mais vous pourriez très bien aussi en avoir un autre qui vous dira, mais justement, le fait que l'on me demande d'y aller précisément à cause de la couleur de ma peau prouve que ce n'est plus un problème d'être noir, mais que c'est même un avantage, et donc j'y vais. Mais ça, il n'y a pas moyen de dire que l'un est meilleur que l'autre. Ça va dépendre vraiment de l'histoire, du passé de chacun, et de comment il veut se positionner par rapport à ça. Alors ça, je dirais, c'est d'où vous venez. On a vu d'abord ce que vous ressentez dans votre trip, puis un niveau plus intellectuel, d'où vous venez, il faut le prendre en considération. Mais comme plusieurs d'entre vous l'ont dit également, il y a aussi le futur. C'est que y aller, ça peut être une opportunité en or pour grandir dans l'organisation. Et dans la mesure où on se sent bien avec son patron, dans la mesure où on est content de son boulot, etc., et qu'on ne nous demande pas de tuer, voler ou que sais-je, on se dit, bah, pourquoi pas ? Et vous voyez là que chez une même personne, il pourrait y avoir des tensions entre ces trois types de questions. Il pourrait se dire, par respect pour mes parents, je n'y vais pas, mais par respect pour mon futur, j'ai envie d'y aller. Comment est-ce que vous résolvez cette tension ? Il n'y a pas de réponse. Je n'ai pas de boîte à outils pour vous dire, voilà comment vous devriez la résoudre. La seule façon de résoudre cette tension, c'est de vous poser la question pour vous-même et d'essayer de réfléchir. Et je dirais que fondamentalement, c'est d'être conscient du problème. Parce qu'à la limite, il y a plein de gens qui ne se poseront même pas la question de savoir si ça pose un problème. Et donc, quand je vous parle d'imagination morale, c'est celle-là. C'est celle de prendre conscience face à des situations données du problème potentiel que cela peut engendrer pour vous ou pour d'autres, et d'essayer d'y donner une réponse qui vous paraisse être la plus juste possible. Juste par rapport à vous-même, par rapport à d'autres pour lesquels vous voulez avoir le respect. Et une quatrième question qu'on n'a pas du tout abordé. Et ça, je voudrais vraiment que vous y fassiez attention. Parce que vous êtes tous tombés, entre guillemets, dans le panneau. J'ai formulé les questions, la question de la façon suivante. Est-ce que vous y allez ou pas? Est-ce que c'est la seule façon d'envisager les choses? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre, Marion?
On avait dit que d'abord on essaie d'en parler tout simplement avec le patron. Et puis éventuellement en considérant que c'est pour nous une situation inacceptable, mais qu'on n'a pas le choix parce qu'un jour on en a besoin, ça aurait été éventuellement d'en parler au client, de dire je ne suis pas forcément la personne.
Je t'arrête tout de suite, ton patron il va sûrement pas dire attends, on va aller proposer ce petit cas dilemmatique, tu vas se dire non, ça c'est pas réaliste, là c'est, pour le coup c'est un peu naïf. Mais réfléchis à une autre possibilité, ou quelqu'un d'autre envisage une autre possibilité que simplement la dichotomie, j'y vais ou j'y vais pas, Adrien.
Mais moi je partais du principe que oui, on pouvait y aller, ça ne posait pas de problème, mais qu'est-ce qu'on va y faire?
Ah, ben voilà, qu'est-ce qu'on va y faire?
Si on y va simplement pour faire
la potiche
sur la douleur de peau, ou alors qu'est-ce qu'on a vraiment un peu la jouer, est-ce qu'on peut apporter des compétences à cette réunion?
Exact. Et donc qu'est-ce que tu pourrais éventuellement revendiquer dans ce cas-là? Je pense que Johan a déjà un début de réponse, Johan.
Moi, on avait pensé que par exemple, si on devait y aller, on se faisait accompagner par une équipe qui pouvait l'encadrer dans la mission et lui apprendre justement les futurs du métier sur le terrain et lui apprendre, voilà, quand on est face à un client, c'est comme ça qu'il faut envisager le business, c'est comme ça qu'il faut poser les questions, etc. Et donc, lui, en tant qu'analyste, pourra apprendre sur le terrain avec d'autres interlocuteurs plus expérimentés.
Donc, qu'est-ce que Adriano et toi, Johan, vous faites en fait par rapport à ce dilemme qui est un peu noir-blanc? Comment est-ce que vous essayez de l'aborder? Si vous essayez un peu d'expliquer ce que vous proposez ici. S'adapter, c'est de trouver une sorte de compromis en fait, qui vous permette éventuellement de résoudre la tension que vous avez, le cas échéant. Peut-être qu'il n'y a pas de tension, alors le problème ne se pose pas. Et donc, si on imagine que quelqu'un pourrait se dire. Je veux y aller pour mon futur, mais je ne veux pas à cause de mon passé. Peut-être qu'une voie de sortie par le haut, c'est de dire j'y vais, mais à la condition que. Et de cette façon, pour moi-même, à la limite, et seulement pour moi-même, mais aussi si je dois l'expliquer à ma grand-mère ou à mon père, je me sentirai bien, je dis ok, j'y ai été, mais à cette condition. Dans le cas précisément de Steve Lewis, qui est à nouveau un cas réel, ce que le type a fait, c'est de dire à son patron qu'il respectait, écoute, ça me pose quand même un problème, mais je suis prêt à y aller à la condition de participer réellement à cette présentation. Et donc, on lui annonce ça 2 jours avant, il ne connaissait rien du cas, il a dû bosser comme un malade pendant les 2 jours pour pouvoir, effectivement, comme un membre de l'équipe, présenter quelque chose au client. Et donc, dans ce cadre-là, pour lui, il ne se sentait pas exploité pour la couleur de sa peau, mais pour ses compétences qu'il valorisait. J'ai quand même une question, Tiffany, tu vas tout de suite réagir, mais est-ce que tout ça est bien dans le meilleur des mondes alors? Vas-y.
L'entreprise, elle ne voit pas un problème, plus de serré, ne voit pas un
ça, c'est à l'entreprise d'en juger, tu vois. C'est une question importante, c'est quand effectivement on a des règles comme celle-là, qui sont des règles de l'entreprise, qui ne sont pas des contraintes légales, si tu veux. Bah, si un de tes patrons te demande de la violer, est-ce que tu dis non, vous respectez vos règles, hein, moi je ne joue pas dans ce jeu-là. C'est possible, hein, je ne dis pas que c'est pas vrai, mais dans les faits c'est un peu dur, je peux vous le dire. Imaginons que le patron, le tout grand patron, dit, écoutez, la règle, nous la mettons en pratique dans la plupart des cas, mais dans certains cas, on peut la relâcher pour justement venir à la rencontre de besoins de nos clients, par exemple. Ouais.
Mais ça
pourrait
imposer un problème par rapport aux autres employés qui
ne voient pas au client. Bien sûr, effectivement, tu marques un point là. C'est-à-dire que la solution qui est de dire, ok, j'y vais, mais à la condition d'être vraiment une partie prenante, c'est très bien pour la personne concernée, mais ça pourrait éventuellement nuire à l'un des autres membres de l'équipe qui lui s'est préparé pendant 2 mois et qu'on va, entre guillemets, mettre à l'écart pour faire de la place au type qui, en plus, a la chance d'être noir dans ce cas-là. Bon. Et ça pose effectivement un autre type de problème. Donc, ce qui est intéressant, comme vous le voyez, c'est que en voulant sortir par le haut d'un dilemme éthique, on peut éventuellement créer indirectement d'autres complications. Comme vous le voyez, c'est pas évident. Mais la bonne nouvelle, c'est que le but n'est pas nécessairement de trouver une solution parfaite, parce qu'il n'y en a peut-être pas. D'accord ? Et qu'à nouveau, elle va varier de personne à personne. Ce qui est sûr, par contre, c'est que toute cette réflexion, toute cette dynamique, eh ben, elle vous permet, si vous la saisissez, de réfléchir à cette question fondamentale de qui vous êtes. Parce que c'est dans des situations comme celle-là que vous allez savoir jusqu'où vous êtes prêt à aller. Dans certains cas, vous serez prêt à jouer les imbéciles et la potiche. Pour d'autres personnes, no way. Certains iront jusqu'à mettre des jupes très courtes et s'en sentiront très bien. Et d'autres le considéreront comme une chose qu'ils ne feront jamais. Vous apprenez à vous connaître. Et donc, c'est une chose que je voudrais que vous reteniez de la discussion jusqu'à présent. C'est que les dilemmes éthiques, ce n'est pas simplement des problèmes, c'est des opportunités. Des opportunités pour se connaître. D'accord ? Et un philosophe important, Friedrich Nietzsche, a dit cette phrase, que d'autres d'ailleurs ont utilisé aussi, « Devenez qui vous êtes ». Devenez qui vous êtes, ce n'est pas aussi simple que ça paraît. Ce n'est pas simplement se laisser vivre. C'est réfléchir activement à ce qu'on est au plus profond de soi et essayer à ce que nos actes soient en cohérence avec cela, de manière consciente. Et si il y a quelque chose qui fonde la responsabilité sociétale des entreprises, ça doit être cela, selon moi. C'est que tous les employés essayent d'agir en essayant de comprendre pourquoi ils font les choses et de veiller à ce que ce soit en cohérence avec ce qu'ils estiment devoir être. Ou vouloir être. Une politique de responsabilité sociétale des entreprises qui serait en porte-à-faux à cela, c'est du bullshit, c'est de la couillonnage intégrale.